Donc, ce matin, retournons dans 1 Jean chapitre 4. J'aimerais poursuivre et tenter de terminer cette série qu'on a commencée il y a quelques semaines sur l'amour de Dieu, qui est aussi une alliance. Et tout ça en vous disant aussi qu'à partir du mois de décembre prochainement, je vais commencer une série. Moi, j'aime faire beaucoup des séries, des thèmes, puis éplucher un thème, puis d'essayer de le comprendre le mieux possible. Et ça va être l'évangélisation à partir du mois de juin. Mais ça ne sera pas l'évangélisation au sens de méthode d'évangélisation. Ce n'est pas nécessairement tout à fait à ça à quoi j'adhère. L'idée, ça va être d'approcher l'évangélisation à partir de la théologie de la chose. Mais, parce qu'on fait beaucoup d'évangélisation, mais on ne se pose pas nécessairement de questions à savoir comment dans la Bible, les apôtres, comment eux, qui sont des modèles à suivre, je pense, comment eux évangélisaient. Alors, qu'est-ce que c'était l'évangélisation dans l'Église primitive? Donc, il va y avoir un peu d'histoire dans ça pour comprendre ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que c'est en soi l'évangélisation quand on parle d'une communauté chrétienne, en comprenant et en partant de l'idée que si l'évangélisation, c'est quelque chose qui est possible pour n'importe quel croyant, tout le monde peut témoigner de sa foi, évidemment, mais c'est aussi un appel. C'est un appel très précis. C'est une vocation aussi d'être un évangéliste. Donc, ça va être parcourir ce sujet-là pendant quelques semaines pour se faire une tête, puis peut-être s'enlever des fardeaux, les mettre aux bonnes places. Parce que beaucoup de croyants se sentent mal de ne pas évangéliser parce qu'ils ont l'impression qu'ils devraient le faire, mais ils ne savent pas comment, ou ils sentent qu'ils n'ont pas l'aisance, qu'ils n'ont pas l'habileté, qu'ils n'ont pas le courage peut-être. Tout. Et finalement, ils ne le font pas, puis on peut vivre dans une forme de culpabilité là-dessus. Donc ça va être beaucoup question de ça. Pourquoi c'est comme ça? Puis pourquoi ça pourrait être différent? Puis pourquoi aussi, et j'ose le dire, que la raison, c'est peut-être que vous n'êtes tout simplement pas un évangéliste. Alors, plutôt que de vous focusser à vous sentir mal de ne pas être une chose que vous croyez que vous devriez être, si on essayait de trouver ensemble qui vous êtes plutôt en Jésus-Christ. Vous voyez, parce que on n'est pas tous la même chose, on est un corps, et dans le corps, il y a une diversité de membres, de dons, de talents, de charismes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne parcourt pas beaucoup, essayer de comprendre qui on est pour comprendre qu'on n'est vraiment pas tous la même chose. On n'a pas tous la même vocation. Donc, ça va être, j'espère, instructif et à la fois porteur d'une forme de délivrance, peut-être, par une compréhension. Donc, 1 Jean chapitre 4 ce matin, sur l'amour de Dieu. Qui de nous... Et là, je vais vous faire lever la main, mais c'est pas, y a pas de risque. Qui de nous ou qui de vous n'avez jamais demandé, non, on va dire nous, qui de nous n'avons jamais demandé à Dieu un jour, ou plusieurs fois de faire ça, de nous visiter par sa présence, de nous remplir de son esprit, de nous communiquer son amour pour nous. Tu sais, dans des moments de détresse où notre besoin, là passerait par par de l'émotion, d'une présence de Dieu. Donc, qui, comme croyant, a jamais fait à Dieu cette prière? Donc, qui l'a déjà fait? Tiens, levez la main. Pas mal toutes nous autres. Donc, ça montre à quel point c'est vital dans nos vies. Et effectivement, il y a des fois où c'est quelque chose qui procurait une émotion joyeuse par une présence de Dieu dans nos vies. Ça fait la différence. Et effectivement, Dieu, des fois, comble notre besoin par ce moyen-là. Je racontais la semaine passée, j'étais à l'église du pasteur Pierre Vériquin à Saint-Jean, puis en parlant, je me suis rappelé une anecdote de M. D.L. Moody, que beaucoup connaissent. C'est un revivaliste important de Chicago dans les années 1850. C'est un peu l'homme qui a pensé aux écoles du dimanche. C'est un des penseurs de ça. Ça n'existait pas avant lui, vraiment, ou pas beaucoup. Et lui, il s'occupait, il aimait beaucoup rejoindre les enfants, puis tout ça. Puis Il a bâti une œuvre à Chicago qui perdure encore aujourd'hui, un siècle et demi après. C'est quand même quelque chose. Il y a une université aujourd'hui à Chicago. Et moi, je connais des gens qui se sont donnés à Jésus-Christ à travers des stations de radio qui appartiennent à cette organisation-là, une religieuse catholique qui s'appelle Sœur André David, que quelques-uns connaissent ici. Cette religieuse catholique-là a fréquenté notre église pendant longtemps, dans les années 80-90. Elle résidait dans un couvent de sœurs à Montréal, et elle, un jour, moi, je travaillais dans le couvent, je lavais de la vaisselle, et un jour, elle passe. Puis moi, je venais de me convertir en 1983, et il y avait WCHP, la station chrétienne. Vous vous souvenez de ça? Ça existe encore, je pense. WCHP. En tout cas. Et j'écoutais, le matin, pendant une heure, de la musique Praise and Worship en anglais. Fait que moi, j'écoutais ça. Et j'avais 21 ans. Donc, j'avais l'air de ce qu'on a l'air à 21 ans. Jeune converti, aux allures en transformation, mais pas transformé vraiment encore. Et puis, elle entend un gars qui ressemble à ce que je ressemble écouter du praise and worship. Et là, dans sa tête, elle rentre dans la chambre à vaisselle, elle me regarde. Elle me connaissait, tu sais, je travaillais depuis des années, elle me dit, « Réal, elle dit, mais qu'est-ce que tu écoutes là? » Ben, la radio, ma sœur. Elle dit, oui, mais elle dit, un Québécois de ton âge, parce qu'elle avait une voix assez tough, là. Un jeune homme de 21 ans de ton âge n'écoute pas de la musique comme ça. Ça se peut pas. C'est vraiment, tu sais, elle a. Ben, j'ai dit, oui. Elle dit, tu sais ce que c'est, là. Tu comprends-tu ce que tu écoutes? Ben oui, c'est le groupe, c'est du Maranatha Seigneur. Tu sais, il y a un band des années 80, tout le monde écoutait ça, du Maranatha Seigneur. J'ai dit, ben vous, connaissez-vous ça? Elle dit, ben oui, elle dit, je connais ça, c'est Maranatha Seigneur. Elle dit, j'ai écouté ça pendant des années, moi, à Chicago. Elle dit, je travaillais dans un hôpital qui nous appartient là-bas. Puis elle dit, moi, ma job, c'était la nuit, peser sur le buzzer pour ouvrir la porte quand les gens arrivaient. Fait qu'elle dit, t'es tranquille? Elle dit, j'écoutais la radio, puis elle dit, il y avait une station qui était reliée à une organisation protestante. Ça dit les protestants, elle dit les born again, tu sais. Elle dit, il y avait une émission, puis elle dit, ça durait la nuit, puis il y avait des cours bibliques, il y avait de la musique, puis elle dit, j'écoutais ça, moi. Fait que là, elle me regarde, elle dit, coudonc, elle dit, t'es-tu un born again, toi? Parce qu'elle née de nouveau, elle connaissait pas l'expression. Elle avait vécu ça aux États-Unis, born again. Ben oui, je suis un born again. Et spontanément, cette religieuse-là qui était haute de même, habillée en blanc avec son voile, me ramasse dans ses bras, puis elle me dit, « Salut, frère! » Et moi, avec des gants de caoutchouc, dans Et suite à ça, on a jasé souvent par après, puis c'était assez pittoresque. Puis je me souviens que je l'ai présenté à Pasteur Jeff. Elle a dit, avez-vous une église? J'ai dit, ouais, dans le quartier. Elle a dit, il y en a ici, au Québec, des born again. Elle dit, je savais pas que ça existait. Elle a dit, c'est qui? T'as un pasteur? J'ai dit, ouais, oui. Puis Pasteur Jeff était venu luncher là avec sa femme quelques jours plus tard. Naomi était toute petite, parce qu'elle était bébé. Et elle a commencé à fréquenter notre église. Elle est devenue très, très proche de madame, de maman Ness Wilson, qui était avec nous aussi à l'époque. Et c'était toujours étrange parce qu'elle allait à la messe le matin dans son couvent. Et nous, notre culte était à l'après-midi. Elle venait à notre culte. Fait que nous, il y avait une religieuse avec un voile blanc sur la tête dans nos cultes. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là dans ce temps-là. C'était particulier. Et puis, elle est venue longtemps. Puis, bon, je ne sais pas pourquoi je vous compte cette histoire-là. Ça n'a rien à voir avec mon message. Mais, oui, je le sais, ça me revient. Monsieur Maud, est-ce que je pourrais avoir une bouteille d'eau, j'ai la gorge un matin? elle a connu l'Évangile à travers le ministère de Monsieur Maudy. Puis, je me souviens de m'être dit, c'est extraordinaire, Monsieur Maudy, il est mort depuis un siècle. Et un siècle plus tard, ce qu'il a fondé amène des gens à l'Évangile encore aujourd'hui. C'est pas merveilleux quand même. Puis des fois, on regarde des ministères comme ça, on dit, ben, peut-être théologiquement, on n'est pas stationné au même endroit. Mais moi, je m'en balance un peu de ça, des fois. Tu me dis, l'œuvre de Dieu ne se limite pas à ce qu'on est avec une extrême grande précision. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, à travers qui il veut. Et M. Moody, une fois, avait conté une histoire dans un livre. Si j'ai lu ça la première année de ma vie chrétienne sur l'amour de Dieu, ça m'avait vraiment impressionné. J'ai tenté l'expérience et ça n'a pas encore marché. Mais l'expérience était la suivante, c'est qu'il raconte un jour qu'un prédicateur de New York l'avait invité. Moody, c'est un évangéliste dans l'âme, c'est un gars qui aimait prêcher dans les revival tents, puis il était dans ça souvent. Et puis, il y a un type qui l'invite à New York, loue un grand hôtel, 6 ou 7 soirs de suite, il devait amener l'évangile. Et tu sais, dans le modèle Billy Graham, les gens amènent du monde, puis un gars prêche, puis les gens s'avancent. C'était ça, là. Et lui est avec sa femme à New York. Il demeure dans l'hôtel, si ma mémoire est bonne, là, je vous raconte l'histoire, peut-être qu'il y a des bouts un peu tout croche, mais à peu près ça, là. Et puis, ça faisait 2 ou 3 soirs qu'il prêchait, et il n'y avait comme pas de résultat. Et puis, il raconte, il dit, il y avait juste 15-20 conversions par soir. Puis, moi je me serais dit, waouh, 20 ou, par soir. Tu sais. Mais lui, il était déprimé, il disait, puis il y avait, ça a l'air, 1 millier de personnes à chaque fois, mais dans la salle, mais ça répondait pas pour lui. Fait qu'un jour, un soir, il déprime avec sa femme dans sa chambre, puis il dit, faut que Dieu intervienne, là. Ça n'a pas de bon sens. Il avait vraiment un fardeau, il est perdu, ce gars-là. Là. Puis, il était très, très, très brisé, puis humilié, puis tout ça. Puis, ils ont prié, lui et sa femme, dans la chambre, et il raconte la présence de Dieu qui débarque dans sa chambre. Et de la façon qu'il raconte ça, là, c'est frémissant, même quand vous le relisez un siècle et demi plus tard. Il raconte que c'est comme si sa chambre était devenue un aquarium plein d'eau, mais que l'eau, c'était l'amour de Dieu. Il dit, on s'est retrouvé, moi et ma femme, comme envahis de quelque chose qui s'appelait l'amour de Dieu. Il dit, c'était d'une présence, puis d'une une intensité. Il dit, on n'a jamais goûté quelque chose comme ça avant ni après dans nos vies. Puis il dit, on n'était pas capable de parler. Puis à un moment donné, j'ai juste dit à Dieu, arrête, parce que si tu n'arrêtes pas, on va mourir. Tellement que c'était intense, ton amour, là. Et c'est parti. Fait que vous imaginez, après l'expérience, un gars regarde sa femme en disant, ouh, wow, t'as-tu vécu ce que je viens de vivre? Tu sais, c'était comme assommant un peu. Et puis, ils se sont couchés. Puis le lendemain, il continue, lui, sa séance d'évangélisation, ses soirées. Et il y avait des centaines de personnes qui répondaient à l'Évangile. Et lui, ce qu'il disait, on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'il dit, moi, j'avais mes notes, j'ai continué mes messages, j'ai rien ajouté de plus. Donc, j'utilise cet exemple-là pour vous dire que c'est béni si Dieu, dans sa grâce, nous permet de vivre des plénitudes avec lui. J'ai jamais vécu ce que M. Moody a vécu, en tout cas pas avec cette intensité-là. Je me souviens d'une fois dans ma vie où, dans quelques minutes, je suis sorti d'une déprime soudaine. Un dimanche, il y a très longtemps de ça, je n'étais pas marié, donc seul. J'étais chez nous à Cartierville et je déprimais. Tu sais, tu sors de l'église, tu as eu du bon temps, plein de monde, blablabla, puis finalement tout le monde s'en va. Puis moi, j'étais le balayeur de l'église, je nettoyais tout. Fait que tout le monde se faisait des lunchs, j'invitais, puis moi, je nettoie, puis j'arrange l'église parce qu'il fallait fermer la porte. M. Kennedy, je sais pas si Jean, tu te souviens, M. Kennedy, comment il était sévère, il fallait pas que ça traîne. Fait que moi, je partais le dernier, 4-5 heures l'après-midi, puis là, je m'en allais chez nous, j'étais tout seul. Et puis, ce soir-là, c'est un été, il y a une déprime qui me pogne. Je me sens seul, mais seul. Et, tu sais, il n'y a pas d'Internet. Tu sais, aller sur Facebook, tu sais, dans ce temps-là, il y a comme rien, là. C'est. J'avais un Bessic, c'est tout ce que j'avais. Et je me souviens très bien que je viens de souper, puis je suis en train de laver ma vaisselle, puis il y a un petit miroir à hauteur de ma face au-dessus du lavabo. Puis Je lave avec ça, puis à un moment donné, en levant ma tête, je me vois la face dans le miroir et ça me déprime encore plus. T'es déprimé, mais là, tu te vois déprimé. Ça ajoute une couche de déprime. Et cette fois-là, j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Là. C'est vraiment pas cool comment je me sens. Là. Fais quelque chose. J'ai pas envie de passer la soirée comme ça. Et vraiment, il s'est passé quelque chose. Une minute après, il y a comme quelque chose qui m'a pogné. Je suis devenu joyeux. J'ai fini ma vaisselle, je chantais des cantiques. Et là, je suis en train de vivre ça, je me disais, mais c'est quand même étrange. Il y a quelque chose qui... Ben, il s'est vraiment passé de quoi? Tu sais, je ne l'ai pas fait arriver, là. Et je finis ma vaisselle, je sors dehors, je pogne mon vieux bicycle, ça fait longtemps que je n'avais pas essayé ça. Je m'en vais faire un tour de vélo. Je dis, voyons, qu'est-ce qui me pogne à faire du vélo un dimanche soir? Je descends au parc Rimbaud, je rencontre deux personnes de notre église qui étaient là, qui ne savaient pas quoi faire, eux autres non plus. On s'est assis à une table de pique-nique. Bon, j'ai passé 2-3 heures de temps, je passais une soirée magnifique. Je suis rentré vraiment ce soir-là, je suis venu en disant, merci, vraiment. Donc, tout ça pour vous dire que Dieu s'occupe de nous. Puis des fois, ça passe par ce type de rencontre-là, de besoin-là. Ça passe par l'émotion. Puis en même temps, comment placer ça pour que ça ne devienne pas une façon de vivre? Parce que c'est là le problème pour beaucoup de croyants. C'est que si Dieu permet ce genre de situation-là, ce genre d'extase qui sont extrêmement bénies, c'est comme pas là-dessus qu'on va bâtir notre vie chrétienne. Parce que si on décide de fonder notre vie chrétienne sur des émotions bonnes comme celle-là, le problème, c'est que quand ces émotions-là ne seront pas là, qu'est-ce qui maintient notre assurance? Parce que notre problème, c'est pas de savoir si Dieu nous aime ou pas, il nous aime. Mais le problème, c'est de savoir comment on sait, comment on peut avoir l'assurance qu'il nous aime, même quand nous, on ne s'aime pas. Parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de projections. On est tellement contaminé par ce phénomène-là. La projection, c'est-à-dire que, ou bien on prête à des gens des intentions qu'ils n'ont pas, mais on fait une projection de nous-mêmes sur eux, mais aussi... on fait des projections de Dieu sur nous à travers ce que nous, on pense de nous. Fait que si moi, je me déteste une journée parce que je me sens trop pécheur, je peux avoir une projection que j'ai l'impression que Dieu est en train de me regarder de la même façon. Et je pourrais vouloir régler ça par des émotions. Dire, envoyez-moi une couche d'émotions, Seigneur, envoyez-moi une vague de ça pour que ça vienne me sortir de mon autre émotion négative. Donc, on peut partir puis bâtir sa vie sur des rythmes d'émotivité. Donc, les émotions ne sont pas toujours l'expression de la vérité, au sens biblique du terme, j'entends, mais elles sont quand même l'expression, nos émotions, de la vérité de ce que nous sommes en train de vivre. Donc, que nous disent nos émotions? Est-ce qu'elles nous disent la vérité ou pas? En réalité, les émotions nous ne font que traduire comment on va. Donc, de la joie à la tristesse, du rire jusqu'à la colère, qui sont opposées peut-être, du sentiment de se sentir heureux jusqu'au sentiment de tristesse et de peine, lorsqu'on se sent seul, tous ces types d'émotions, qu'est-ce qu'elles nous disent au juste? Bien, elles ne font que traduire la situation dans laquelle on est. Si on est dans une situation heureuse, bien, il y a quelque chose en nous qui prend la situation puis qui la traduit dans une émotion qui correspond à la vérité du moment. Et on est variable là-dedans. Il y a des gens qui rient plus fort que d'autres. J'ai regardé Pasteur Claude en disant ça. Parce, savez-vous quelle a été sa réaction le jour où quelqu'un lui a dit qu'il serait un jour pasteur? Il n'a pas juste ri, il a tombé à terre en riant. C'est Mme Wilson qui avait dit ça. Puis, vous savez, moi, je suis moins émotif que lui. Moi, elle m'a dit ça, puis je suis resté bien straight. Elle a dit, vous allez être pasteur un jour, vous deux. Ça faisait une semaine qu'on était sauvés, à peine. Moi, c'était comme, ah bon? Ah, bizarre. Et lui, il a éclaté de rire. Donc, mais vous voyez, on est devant le même événement, la même circonstance, mais on ne réagit pas de la même façon. Donc, laquelle de nos deux émotions est la plus vraie? L'émotion qu'on a ne nous dit rien sur l'événement. Elle nous dit sur, elle nous parle de ce que nous sommes. Donc, si votre marche avec Dieu se fonde sur des émotions, beaucoup, bien, ça n'ira pas plus loin que vous, ce que vous êtes. Et la qualité de votre bonheur ne sera pas plus solide que la qualité des émotions qui soutiennent ce bonheur-là. Quand vous regardez l'Écriture nous amène plus loin que nos émotions, sans nier la nécessité de nos émotions. L'Écriture, la parole de Dieu, la vie de l'Esprit, la marche chrétienne nous amène à être capable, mais là, c'est une grande chose, à pouvoir manifester des émotions qui s'opposent à l'événement ou à ce que l'événement devrait normalement produire. Exemple, un jour, Paul, l'apôtre, est à Philippe, se fait emprisonner, il se fait battre de verge. Quelle est l'émotion qui devrait accompagner un événement comme ça? La colère, la vengeance, la tristesse. Et Paul était rempli du Saint-Esprit et joyeux, mais lui chantait des cantiques. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est-à-dire que ce n'est plus les émotions qui contrôlent, c'est la vie de l'Esprit en nous qui produit encore des émotions. Ces émotions ne sont pas mauvaises, mais le Saint-Esprit produit en nous une autre sorte d'assurance, une autre sorte d'émotion. Donc, d'où vient notre assurance? Et c'est pour ça que le texte de 1 Jean 4, que je parcours depuis des semaines, pardon, verset 16, je suis frappé juste par la première partie du texte, 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Faites juste réfléchir à cette courte déclaration. Et je sais que j'ai dit ça dans les dernières semaines et je veux le redire encore aujourd'hui. L'apôtre Jean, lorsqu'il nous parle de l'amour de Dieu, il ne nous en parle pas comme nous, on aurait envie de s'en parler aujourd'hui. Nous, on aurait envie de dire, nous avons connu, dans le sens, on aurait plutôt envie de dire, on a senti l'amour de Dieu. Alors que Jean, pour lui, l'amour de Dieu est une connaissance. Et c'est pour ça que la théologie sur l'amour de Dieu est beaucoup plus riche que simplement une vague d'émotions. Dans l'Écriture, surtout dans Jean, c'est qu'il a connu, lorsqu'il dit qu'il a connu l'amour de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est l'incarnation de l'amour de Dieu. Donc ici, il ne parlait pas de quelque chose qui se vit, mais il parlait de la personne par laquelle on le vit. Et il termine l'idée en disant « Et nous y avons cru. » Votre assurance devant Dieu au jour du jugement, ça ne sera pas de savoir comment vous vous sentez au moment où vous mourrez. Parce qu'il se peut que si ça vous arrive un jour, ça se peut que ça soit dans des souffrances. C'est un accident imprévu. Ou suite à une maladie terrible. Dans le pastorat, on accompagne des gens vers la mort, des gens qui vont mourir, on les visite, on va les voir à l'hôpital, puis c'est OK, c'est pas facile de mourir. C'est pas cool de mourir, c'est terrible de mourir. C'est le rappel d'un jugement de Dieu sur Adam. Et je me souviens d'une dame au Saguenay qui était, j'oublie son nom, c'était la mère à Nancy, c'était quoi son nom? Mme Duchesne, c'est ça, t'en souviens? Hein? Cette femme-là, évidemment, était mourante, et puis il y avait ses enfants, puis parmi ses enfants, il y en avait une qui était chrétienne, toutes les autres non, puis mais moi, je suis là à l'hôpital, on est dans les dernières heures, et puis il y a une de ses filles qui n'était pas arrivée de Québec, et là, elle était mourante, puis là, son frère, il me dit, ben, il dit, je pense, quand sa fille, notre sœur va arriver, c'est la dernière qu'elle a pas vu. Fait qu'elle était encore consciente, mais était, vous savez, un mourant, ce que c'est. T'es jamais sûr si. Mais bref, cette sœur-là arrive, elle rentre dans la chambre, passe un 10-15 minutes seul avec sa mère. Et là, elle ressort. Et toutes nous autres, on se disait, faudrait qu'elle meure. C'est pas qu'on souhaite la mort de quelqu'un, mais à un moment donné, quand tu vois quelqu'un souffrir dans un lit, là, c'est comme, tu dis, Seigneur, viens chercher, là, sauver, comment, qu'est-ce que tu fais? Vraiment, là, c'est comme, et elle mourrait pas. Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit dans la famille, va y parler. Moi, j'y allais de temps en temps, je vais avec, mais va y dire de mourir. C'est pas OK. Écoutez, je sais que ça paraît drôle, mais si vous avez déjà vécu un moment comme ça avec un mourant, vous comprenez exactement ce que je veux dire. Hein? C'est vraiment quelque chose. On dirait que tu aurais envie de prendre un bout de sa... Tu dis, bon, pour qu'elle souffre moins, tu dis, on va partager ça à la gang, ça va être moins pire. Mais tu peux pas, puis tu peux pas mourir à sa place, puis tu peux pas... Fait que tu assistes comme complètement... impotent. Bref, je rentre dans la chambre, puis je prends sa main, puis là, je lui dis, regardez, Mme Duchesne, vos enfants sont tous venus vous voir. Vous avez parlé avec chacun d'entre eux. Vous appartenez à Jésus-Christ. Vous avez la certitude d'être sauvés, tout ça. Vous pouvez partir, là. Vous pouvez partir en paix, là, tu sais. Et expérience étrange. Elle ouvre un œil. Elle fait signe de m'approcher mon oreille de sa bouche. Je dis, oh, elle entend ce que je dis. Et là, je mets mon oreille. Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Elle dit, pasteur, c'est tough mourir. C'est dur. That's it. J'ai reculé, je suis bon. J'étais là, OK. Oublie ça. Tu peux rien faire. C'est comme si elle ne contrôle pas ça non plus, elle. Puis, depuis ce temps-là, je me dis, OK, un jour, là, ça va être ma condition, peut-être, ça. Et ça va être ça que je vais être en train de vivre, mais. Mais si c'est souffrant, ça se peut que je sois en colère dans ce moment-là, ça se peut que je ne me sente pas bien du tout. Mais quelle est mon assurance que l'amour de Dieu, puis comme Camille le disait tout à l'heure tellement bien, on a la certitude que peu importe ce qu'on est, puis peu importe ce qu'on n'est pas, l'amour de Dieu, lui, reste stable pour nous. C'est pour ça que l'amour de Dieu dont j'en parle, c'est un amour qu'il a connu, mais c'est un amour auquel il a cru. Il n'a pas cru cet amour-là à cause de l'émotion qui l'accompagne, mais à cause de l'alliance qui est faite dans cet amour. Donc, on va terminer sur un texte dans Hébreux chapitre 6, verset 13. Hébreux 6, 13 à 20, c'est un texte que j'apprécie beaucoup. Parce que c'est la lettre aux Hébreux, puis la lettre aux Hébreux, ça a toujours l'air un peu complexe. On dirait que c'est une mécanique qui nous ramène dans l'Ancien Testament, puis sur toute la question du sacerdoce, mais également des promesses, des alliances. Et lorsqu'on le lit, on peut être vraiment, mais vraiment édifié. Donc, juste avant de le lire, il faut comprendre que le texte utilise un langage juridique. Comme c'est souvent le cas dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul fait ça également dans la lettre aux Romains, c'est-à-dire nous parler de contrat, de résolution. Dieu a fait une résolution, puis c'est vraiment le langage utilisé dans le monde municipal de son époque, c'est-à-dire comment on gérait les choses et comment on prenait une décision en conseil. Et comment le conseil faisait une résolution? On fait ça ici à l'église avec notre séance, on a des résolutions. Une résolution, c'est un papier officiel qui fait qu'à maintenant, on va s'en tenir à cette résolution qu'on a votée ensemble. Donc, vous voyez, c'est le monde des résolutions et de la gestion. Et c'est comme ça souvent que l'Écriture nous parle pour nous dire de quelle façon on doit comprendre l'œuvre de Dieu pour nous. Pourquoi c'est important de le comprendre dans cet angle-là? Parce que sinon, vous allez le comprendre à travers les angles de vos émotions, de votre ressenti. Puis des fois, ben, ça ne vous dira pas la vérité sur qu'est-ce que Dieu pense de vous. Alors, c'est comme si Dieu disait, je vais leur parler avec un langage de gestion et de choses qui ne peuvent pas changer parce que c'est des décisions que Dieu a prises. Donc, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham Et la promesse à Abraham, c'est une promesse qui est extrêmement importante parce que c'est la promesse par laquelle on comprend qu'à travers sa descendance, le Messie va venir, le Messie va mourir à la croix, le Messie va ressusciter, puis le Messie va nous sauver. Donc Dieu a d'abord fait cette promesse à un homme qui s'appelle Abraham et à toute sa descendance. Donc lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, pourquoi fallait-il qu'il jure par un plus grand que lui? Parce que dans la conception administrative de l'époque, c'est encore vrai aujourd'hui, ça paraît moins, mais si vous vivez dans un village, dans une ville quelconque, et que vous décidez d'acheter ou de vendre une maison, vous ne pouviez pas le faire de gré à gré avec quelqu'un. Vous deviez aller voir les officiels du village. Vous deviez aller voir un plus grand que vous, un témoin, un ancien de la place, qui lui allait authentifier que M. Untel a vendu sa maison à M. Untel, ou a vendu un bœuf, ou a vendu un ci, ou un ça. Donc, les contrats, qui étaient souvent des contrats verbaux, dans beaucoup de cas, c'était même écrit, mais ça, c'était quelqu'un de plus grand que soi qui était le témoin du contrat qu'on venait de faire. Donc, Dieu, c'est l'idée ici, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, jura par lui-même. Il y a seulement Dieu qui a ce problème-là. C'est-à-dire, qui c'est qu'on peut trouver de plus que nous autres? Il dit, certainement, il dit à Abraham, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Et la promesse pour Abraham, c'était d'abord un fils, Isaac, et suivant Isaac, toute la descendance qui passe par David, la lignée de Davidique, et ensuite qui se rend jusqu'à Jésus-Christ. Or, les hommes, verset 16, jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Pourquoi Dieu avait-il besoin de nous donner autant de garanties sur la certitude de son œuvre et de sa fidélité? Parce que Dieu, dans sa nature à lui, n'est pas un menteur. Il ne peut pas nous tromper, Dieu. Lui le sait. Le problème, c'est que nous, on ne le sait pas. Nous, on ne le croit pas. Dans notre condition fragile produite par l'état pécheur, c'est jamais acquis tout ça. Alors, si Dieu le fait, c'est pas pour lui. Il se protège pas contre son infidélité probable, mais il nous protège, nous. Je vais leur parler leur langage administratif à eux, qui est de lui de toute façon. Donc, Dieu a voulu montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution intervient par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Donc nous, tout ce qu'on pouvait faire, c'était de saisir cette promesse, c'est cette espérance qui nous était proposée, mais Dieu, lui, l'a scellée dans une alliance. C'est pour ça que j'appelle cette série-là « L'amour de Dieu, c'est une alliance ». Dieu nous aime, puis il peut y avoir plein d'émotions intéressantes là-dedans, mais ce qui est important, c'est d'avoir cru la qualité de cette alliance. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Dernier détail là-dessus. Ce que l'auteur ici tente de nous faire comprendre, puis bien que je vais vous le résumer en 2 minutes, ça sera loin d'être aussi complet que ce que l'auteur essaie de nous dire. C'est que l'espérance dans laquelle Dieu nous a placés, qui est notre salut en lui, puis la certitude qu'on est sauvé, pardonné, purifié, aimé parfaitement de lui pour l'éternité, c'est comme une ancre, tu sais, une ancre de bateau. C'est comme s'il nous disait, l'ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré. Là où Jésus est entré, c'est dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, c'est dans le lieu très saint. Pas celui qui était dans le temple en Israël, mais Christ est mort et est allé accomplir dans le lieu très saint, qui était le véritable lieu très saint dans les lieux célestes. Il a amené là son sacrifice. Et c'est comme s'il y avait entre nous et ce lieu un fil, une ancre. Une ancre, vous ne jetez pas une ancre s'il n'y a pas une chaîne après. L'ancre est jetée du bateau et c'est la chaîne qui lie l'ancre au bateau qui rend la stabilité. Donc, c'est comme si l'auteur essayait de nous conduire dans un monde marin en disant, il y a une ancre qui vous relie, vous, à ce lieu très saint, là où Jésus est rentré pour offrir son sang, son corps comme un sacrifice, puis qui était élu et fondé et sacrifié depuis avant même la fondation du monde. Donc, ce qui nous donne pour nous, aujourd'hui, demain et après-demain, dans ces jours où on vit des émotions et des situations qui nous mettent dans toutes sortes d'états, d'émotions qui sont contraires, savez-vous, des fois, ça ne vaut même pas la peine de se dire, si j'étais un bon chrétien, je n'aurais pas ce genre d'émotions-là. Ben non, ça ne marche pas comme ça. On a les émotions qu'on a. C'est tout. Vivons-les, confessons-les après, mais la chose qui est importante, c'est que de ces émotions-là, on ne doit pas déduire ce que Dieu pense de nous. Dieu pense de nous ce qu'il a fait. Dieu ne pense pas de nous ce que nous, on pense de nous. Amen. Alors, merci, Père, de bénir aujourd'hui tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ont été baptisés aussi. Seigneur, bien que le baptême ne change rien en tant que tel à notre salut, il change quand même quelque chose à notre témoignage, Seigneur. C'est un témoignage qui est rendu devant toi, mais aussi devant cette communauté, donc devant les hommes. Et ça, Seigneur, c'est un parfum de bonne odeur devant toi ce matin. Merci. Merci de bénir ta parole dans le précieux nom de Jésus. Amen. Une petite minute. Il y a deux petites annonces qu'on doit vous faire. Il y a deux meetings qui commencent dans quelques minutes. Tous ceux qui vont en Haïti, vous avez une rencontre au local 210 de l'école de l'autre côté. Alors, suivez, essayez de trouver un escalier qui monte sans fin là, jusqu'au rang. Montez jusqu'en haut complètement, trouver le local 210. Vous avez une rencontre pour Haïti avec Diane Deslongchamp. Et l'autre rencontre, cela dure 10 minutes, dans le haut café, juste ici en arrière, tous ceux qui sont des évangélistes dans notre Église. Là, je ne parle pas de ceux qui sont officiellement des évangélistes reconnus. Je parle de ceux qui aiment ça, évangéliser. Pour qui, vous autres, là, c'est ça là, votre fardeau. Vous aimeriez évangéliser, vous ne savez pas comment, ou vous le faites déjà, vous le faites depuis 30 ans, vous le faites depuis un an, trois mois, peu importe. Ceux qui ont un cœur d'évangéliste, je veux vous parler pendant 10 minutes. Pas plus que 10 minutes, dans le café d'en haut, juste l'autre côté. Merci beaucoup.